Tout d'abord, discutons de la question du jeûne, de Bigu. Comme vous le savez, dans la communauté du Qigong, apparaissent différents états et les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre ce qui se passe. S'agit-il de pouvoirs supranormaux? S'agit-il d'une élévation de niveau? Est-ce nécessairement comme ça ou s'agit-il de toute autre chose? On ne parvient pas à l'expliquer. Bigu appartient à cette catégorie, aussi parlons-en. Jeûner, ce phénomène, existe dans la société humaine. Pas seulement dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays. Pas seulement parmi les pratiquants, mais aussi parmi les non-pratiquants. Pourquoi aussi parmi les non-pratiquants? C'est dû à leur qualité innée et ce qu'ils ont amené avec eux du passé. Comme ça a été publié dans les journaux, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé pendant plusieurs décennies, pendant nombre d'années. Il n'y a pas qu'un ou deux cas individuels. Il y a déjà de nombreux cas semblables dans notre pays. Vraiment, ils ne se nourrissent pas, que tu le crois ou non. En tout cas, certains le voient, mais ne l'acceptent pas pour autant. D'autres ferment les yeux pour ne pas l'admettre. On dit que les agences aérospatiales font aussi des recherches dans cette direction. Cela veut dire que ce phénomène existe. Il a été relaté dans notre pays et à l'étranger. Dans le milieu des pratiquants, Bigu n'est pas quelque chose d'étrange. À propos de Bigu, certains disent que leur cultivation doit passer par cette étape. Certains disent aussi que c'est une manifestation de l'élévation du niveau. Il y en a aussi qui le considèrent comme une purification du corps. D'autres disent que c'est un pouvoir supranormal, une aptitude. Je le dis à tout le monde, ce n'est rien de cela. Rien de tout ce qui précède. Alors au final, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une méthode utilisée par les pratiquants dans des conditions très spéciales. C'est aussi simple que cela. Alors dans quelles conditions cette méthode est-elle utilisée? Vous savez, parmi les pratiquants actuels, excepté ces personnes qui vivent dans les montagnes ou dans les forêts sauvages, dans la société des gens ordinaires, la plupart qui cultivent dans les monastères ou dans d'autres environnements ne l'utilisent pas. Parce que c'est directement relié à des conditions particulières d'existence. Il y a aussi des raisons historiques. Vous savez, avant que les religions ne soient établies, il y avait beaucoup de pratiquants dans l'ancienne Chine qui se construisaient une hutte et y cultivaient seuls, ou alors se glissaient dans une grotte pour y cultiver. Certaines personnes montaient dans une grotte surplombant une falaise. Une fois là-haut, dans cette paroi rocheuse, elles coupaient la corde. Si elles n'achevaient pas leur cultivation, elles n'en sortaient jamais. À cet endroit, il n'y avait rien. Une fois à l'intérieur, le pratiquant n'avait ni nourriture ni eau. S'il ne réussissait pas dans la cultivation, il mourait de soif. S'il ne réussissait pas dans la cultivation, il mourait de faim. Réfléchissez. Beaucoup de gens ont fait cela. Il y a de nombreux exemples. Ainsi, la source de la nourriture devient un problème pour une personne qui cultive dans de telles conditions. Alors, si elle n'utilise pas cette méthode, elle mourra de faim. C'est pourquoi c'est une méthode de cultivation utilisée dans un tel environnement, dans de telles conditions. Il ne s'agit pas du tout d'une aptitude et ce n'est pas une étape nécessaire dans la cultivation. Ce n'est pas le cas du tout. Maintenant, certains le prennent pour un pouvoir supranormal ou une aptitude. Parce que certains maîtres de Qigong cultivent leur conscience secondaire, ils ne sont pas eux-mêmes très au clair à propos des pouvoirs supranormaux dont ils disposent. Quelle est la forme de leurs pouvoirs supranormaux? Comment sont-ils produits et dans quel état sont-ils? Ces maîtres de Qigong n'en savent rien eux-mêmes. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils peuvent traiter des maladies, qu'ils ont certaines aptitudes. Mais honnêtement, même celles-ci ne leur appartiennent pas. Ceux qui sont possédés par des esprits maléfiques peuvent aussi réaliser cela. Ils n'en savent rien non plus. En fait, bien sûr, il y a maintenant des gens qui répandent Bigu largement dans la société. Le résultat est que beaucoup de gens finissent dans les hôpitaux. Leur vie est mise en danger. Il y a beaucoup de cas de ce genre. Qui a finalement mis en pratique Bigu? Montre-moi une personne qui a réussi Bigu. Plus de 1000 personnes assistent à un séminaire, mais après celui-ci, qui peut maintenir fidèlement la pratique de Bigu? Ils meurent de faim pendant quelques jours, trouvent que ce n'est pas bien et alors commencent à manger de nouveau. Je vous dis que c'est une méthode de cultivation utilisée dans des conditions très spéciales. Cette méthode de cultivation est au-delà du niveau humain ordinaire. Alors si un maître de Qigong la répand publiquement, en fait, il sabote déjà le Fa. Il interfère avec les principes des gens ordinaires. Par conséquent, c'est un démon. Réfléchissez, c'est la manière de vivre des gens ordinaires. Les êtres humains sont autorisés à vivre de cette manière. Si les gens se mettaient à arrêter de manger, seraient-ils encore des êtres humains? Supposons que des milliers de gens participent en masse à un séminaire sur Bigu et cessent de manger. Ne disons pas que tout le monde dans le pays cesse de manger, disons simplement que toute personne dans la région de Guangzhou cesse de manger. Alors, comme ce serait commode, lorsque tu te dépêches pour aller travailler le matin, tu dois préparer de la nourriture. Même prendre un petit déjeuner te demande du temps. Et maintenant, après avoir dormi suffisamment, tu prends simplement ton sac et tu vas directement au travail. Il ne serait plus nécessaire de faire pousser les récoltes. Il y aurait alors beaucoup de terrain, tu pourrais les utiliser à ta guise, tu pourrais construire des maisons comme il te plairait, où tu voudrais. Plus besoin de développer l'agriculture non plus. Cela épargnerait beaucoup de soucis. Cela éviterait les plus grandes complications. Si tu n'es pas obligé de manger, alors peut-être ne dois-tu pas aller aux toilettes. Pensez-y, une telle chose a-t-elle le droit d'exister? En aucun cas, cela ne marcherait. Et puisqu'on aurait ainsi saboté l'état de la société des gens ordinaires, cela conduirait inévitablement à des conséquences graves. La vie de beaucoup de gens était mise en danger. De nombreuses personnes l'ont ressenti et pensaient qu'elles mourraient de faim. Réfléchissez, seul un pratiquant peut faire ce genre de choses. Telle personne est curieuse, elle veut obtenir quelque chose et va à un séminaire en disant « Bigu, Bigu, nous allons aussi faire Bigu ». Mais tu n'as pas renoncé aux attachements humains ordinaires. Tu n'as pas renoncé aux sept émotions et aux six désir. Tu as encore des attachements à toutes sortes de nourritures, la viande, les œufs, le poulet, le poisson et d'autres aliments. Peux-tu réussir Bigu? Bien, vas-y et essaye. On te met quelque chose dans le corps pour te permettre de faire Bigu. Dès que tu les vois, si tu ne penses pas à la nourriture, ce n'est pas si mauvais. Peut-être réussiras-tu à le faire pendant quelques jours. Mais si tu penses à la viande ou que tu meurs d'envie de quelque chose d'autre, alors tu en prends deux bouchées. Mais aussitôt avalé, tu vomis. Sitôt mangé, tu le rejettes. Tu ne peux pas le manger. Dès que tu essaies de le faire, tu vomis, ce qui te crée mentalement une tension et te fait peur. Je ne peux plus manger, ne vais-je pas mourir de faim? Comment pourrais-je continuer comme ça longtemps? Dès que tu as peur, c'est l'échec. Parce qu'on doit s'en tenir aux critères élevés d'un pratiquant, alors en un instant, tu as échoué. Mais en même temps, tu ne peux pas remanger. C'est pourquoi ta vie est mise en danger. Il ne s'agit pas de Xiaolian. Pourquoi a-t-on enseigné cela? Quant à ceux qui enseignent ces choses, j'ai vu qu'ils installent une matière noire dans ton estomac, ce qui te rend incapable de manger. Cette matière noire à l'intérieur te donne l'impression d'être ballonné et rassasié. Si tu manges, cette matière noire le repousse hors de toi. Ainsi, elle ne te permet plus de manger. De plus, cela n'a rien à voir avec un fa juste ou une voie orthodoxe. Comment ce qui est noir pourrait-il être bon? Ce qui est noir est pervers, c'est du yin. Par conséquent, cette chose ne peut pas être popularisée. Mais ce phénomène existe. C'est tout ce que nous en dirons. Ensuite, nous allons parler d'un autre problème. Le problème de voler du qi. Nous allons l'expliquer brièvement parce que ce n'est pas quelque chose dont nous sommes obligés de parler à un haut niveau de cultivation. Mais je vais aussi révéler ce phénomène peu compris. Dans le milieu du qigong, beaucoup d'individus effraient les gens avec des choses comme voler du qi, voler ce qui appartient à d'autres. De quoi s'agit-il? Au cours des jours passés, durant mes conférences, j'ai énoncé le principe que le qi n'est absolument rien. C'est simplement une méthode employée pour purifier le corps, où l'on chasse le mauvais qi et l'on fait circuler le bon qi à travers le corps. Dès lors, avec le temps, le qi dans le corps va graduellement devenir clair et meilleur que le qi du corps d'une personne moyenne. Mais quoi qu'il puisse être, il est encore du qi, il n'est rien. Je ne sais pas comment certains pratiquent le qigong. Si je pense à le faire affluer dans mon abdomen, celui-ci en sera rempli en peu de temps et en sera même tout gonflé. Que tu te concentres sur le dantian, qu'avec les mains tu le déverses au-dessus de la tête, que tu prennes la position debout les bras écartés ou que tu emploies encore toutes sortes d'autres méthodes, je pense que ton abdomen sera immédiatement rempli de qi. Alors ça n'est rien. Puisque ce n'est rien, pourquoi être encore effrayé de le perdre? Réfléchissez. La pratique du qi vise à purifier le corps, le déverser du sommet et le chasser par le bas. Beaucoup de méthodes procèdent comme cela. Même si on ne pratique pas ouvertement cela, leurs méthodes ont pour but de purifier le corps. Le but de pratiquer le qi est simplement de purifier le corps. Dans la pratique authentique du gong, on ne pratique pas le qi. Le gong est une matière de haute énergie. On n'a pas la sensation des maîtres du qi. On n'a aucun qi. Alors, puisqu'il en est ainsi, réfléchissez. Quand tu pratiques là-bas et que quelqu'un te vole ton chi, n'est-ce pas une bonne chose? Tu essayes avec difficulté de chasser le chi pathogène et tu n'en es pas capable. Mais on te le vole. Eh bien, qu'il te le vole. D'un côté, un individu s'efforce avec peine de te le voler et de ce côté-ci, tu t'en remplis. N'est-ce pas formidable? Où peut-on faire une aussi bonne affaire? Mais celui qui vole du chi n'en sait rien. On pratique le qigong parce qu'on est malade. Particulièrement, il y a quelques années, quand les gens venaient juste de connaître le qigong, n'était-ce pas toujours le cas? Vas-y, vole-le. D'un côté, on te le vole, de l'autre, tu t'en remplis. Je dis que c'est une bonne chose. Qu'es-tu en train de perdre? Tu n'as rien perdu du tout. Quant à cette petite quantité de qi dans ton dantian, il ne sera pas capable de le dérober. On doit être à un haut niveau pour toucher à cela. Mais à un haut niveau, la personne saura qu'elle ne peut pas le faire librement. Donc, en aucune façon, elle ne le prendra. Uniquement une personne qui n'est rien, une personne qui pratique le qi toute la journée, qui croit qu'elle est quelqu'un de spécial, agira ainsi. Elle pense pouvoir voler du qi aux autres. Mais lorsque tu regardes un tel individu, habituellement, il est le plus stupide. Si stupide que cela dépasse toute description. Pourquoi? Parce que lui-même est aussi au niveau du qi. Il ne peut pas distinguer le bon qi du mauvais qi. Alors quand il vole du qi aux autres, il prend tout en bloc, le bon qi, le mauvais qi et le qi pathogène. Il vole tout cela du corps des gens. Toi, tu n'arrives même pas à le chasser, mais lui, il travaille dur pour te l'enlever. Vole-le. Son corps est tout noir à cause de ce vol. Il ose dérober du qi à n'importe qui. Il y a toutes sortes de qi pathogènes dans son corps. Ce truc-là, les autres, après leur pratique ou après avoir traité des maladies, doivent encore l'évacuer, bien qu'ils n'en soient pas capables. Comme ceux qui pratiquent le qigong sont au niveau de la pratique du qi, comment pourraient-ils l'évacuer? Tu n'as pas ces méthodes-là, tu n'en as pas la capacité. Mais le voleur n'essaie même pas de l'évacuer. Comment pourrait-il l'évacuer? Alors il garde tout. Il est tout noir à l'intérieur. Il a toutes sortes de qi pathogènes en lui. Ce qui l'attend dans le futur sont des maladies encore plus graves et dangereuses. C'est le karma. Tout cela s'est logé dans son corps. En plus, il y a un principe dans l'univers. Pas de perte, pas de gain. Lorsque tu gagnes, tu perds. Si tu ne veux pas perdre, tu seras forcé de le faire. Des substances immenses et variées dans cet univers ont pour effet de maintenir cet équilibre. Cela ne marcherait pas si tu ne perdais pas. Cela ne marcherait pas si tu voulais seulement prendre. D'accord, vas-y, prends le chi des gens. De ce côté-ci, tu voles le chi. Le 2 de ton propre corps forme un flux qui s'échange avec le chi pathogène volé. La quantité de chi qui vient de ce côté-ci est égale à la quantité de 2 qui sort de ce côté-là. Ainsi, je l'ai dit, cette personne est stupide au-delà de toute description. En voilà la raison. Aux autres, ils donnent du 2 et leur volent leur chi pathogène. En fait, il aide les autres à purifier leur corps. Dis-moi, que fait-il? Y a-t-il alors quelqu'un de plus stupide que lui? Mais certains qui ne comprennent pas la vérité parlent toujours de cela. Dans le milieu du qigong, ils pensent qu'ils en sont capables. Comme ils cultivent et pratiquent sans insister sur le xing-xing. Je dis à tout le monde que pratiquer le gong sans mettre l'accent sur le xing-xing, sans donner de l'importance aux deux, est pratiquer une voie perverse. Cela est sûr et certain, n'est-ce pas? Alors beaucoup de gens font cela. À ton avis, que font-ils? Ils se nuisent à eux-mêmes. En premier lieu, le qi n'est rien. Certains pensent que s'ils ont beaucoup de qi, ils ont acquis une bonne hauteur de gong. Vous savez, dans les années passées, on parlait de ceux qui pouvaient rassembler du qi et de la quantité qu'ils étaient capables de collecter. Certains peuvent vraiment recueillir du qi, mais cela ne signifie rien d'autre que d'avoir une grande capacité à absorber et expulser de grandes quantités de qi. Qu'y a-t-il de valable là-dedans? Ce n'est pas du gong. Certains rassemblent beaucoup de qi, les coussinets de leurs doigts gonflent, leurs mains gonflent, même leur corps gonfle. Mais à quoi bon? En plus, le corps de certains ne peut s'y ajuster. Alors le qi déborde de son corps. Il porte un champ très grand qui est du qi. Quand d'autres, qui n'en savent rien, s'approchent d'une telle personne, ils disent « Oh, tu as vraiment bien pratiqué le gong, je peux le sentir. » Mais ce n'est rien. Ce n'est pas du gong. Pour parler franchement, peu importe combien tu en rassembles, quel effet cela pourra-t-il avoir? Tu n'es rien d'autre qu'un grand sac de qi. Cela ne peut avoir aucun effet. Le but de pratiquer le qi est de purifier le corps et finalement d'atteindre l'état où il n'y a plus de qi. Le but est de pratiquer jusqu'à ce qu'il ne te reste plus aucun qi, n'est-ce pas?
C'est
Alors, il y a des gens qui parlent de voler aux autres ce chi-là ou ce chi-ci. Peu importe comment tu nommes ce chi, que tu l'appelles du chi originel chaotique, que tu l'appelles le chi tel ou tel, il y a tellement de noms. Je le dis à tout le monde, cela n'est rien d'autre qu'un peu de chi au niveau de la pratique du chi. Tout cela n'est rien. Je m'arrête pour ce sujet. En fait, si un pratiquant de gong veut voler de l'énergie à quelqu'un d'autre, il n'en sera pas capable. Et s'il le faisait, il ne serait pas capable de l'accumuler. Pourquoi ? Parce qu'il y a un critère et une mesure pour savoir jusqu'à quelle hauteur on a cultivé. Même si tu essaies d'ajouter à celui-ci quelque chose, cela ne restera pas. Parce que chaque particule de ton gong est à ton image, et le gong des autres personnes à leur image. Tu pourras l'ajouter, mais est-ce que cela restera ? Si tu le places là, il y aura une bataille. Puisque tu l'as obtenu en le volant, cela se disputera avec ton gong, et dans le pire des cas, cela pourra même détruire une partie de ton gong. C'est pourquoi les pratiquants authentiques ne font jamais de telles choses. De plus, tous les pratiquants qui ont développé du gong ont des maîtres qui veillent sur eux. Celui-ci regardera et dira « Que fais-tu ? Voler ce qui appartient aux autres ? Tu devras leur donner tellement de deux pour cela. Tu perdras tellement de deux. » Le gong est la chose la plus précieuse. Comment cela peut-il être permis ? Et le maître de l'autre personne ne le tolérera pas non plus. Qu'es-tu en train de faire ? Voler ce qui appartient à mon disciple ? Comment pourrait-il y avoir de pareilles choses ? C'est pourquoi au niveau supérieur, on voit très rarement ce genre de situation. Mais pour ceux qui cultivent et pratiquent dans le fa de ce monde, au niveau très très inférieur, il peut aussi arriver la situation suivante. Par exemple, tu possèdes toi-même quelque chose, tu allais quelque part et tu as reçu en cadeau de bonnes choses, une sorte d'instrument du fa, ou bien, certaines ne savent peut-être pas d'où ça vient. La seule chose qu'ils savent est qu'ils avaient un instrument de fa, un trésor ou quelque chose d'autre, et qu'il leur a été volé par quelqu'un. Je pense que ça n'est vraiment rien. Si cela a été volé, alors ça a été volé. N'y sois pas attaché. Peut-être est-ce une dette karmique. Tu dois rembourser quelque chose à quelqu'un. Rien de ce qui est tien, de ce qui est vraiment développé dans la cultivation de Dafa ne sera perdu. Il n'est pas permis de perdre ces choses-là. Personne n'ose y toucher. Ensuite, parlons de la question de collecter du chi. C'est aussi quelque chose au niveau de la pratique du chi, mais ce sera bénéfique pour la compréhension de nos pratiquants si j'en discute. Collecter du chi. Beaucoup de gens prêtent attention à collecter du chi. Comment le rassemble-t-on ? Je dis que l'école taoïste pratique la position debout de Tianzi et que l'école de Bouddha pratique le déversement du qi par le sommet de la tête en tenant les mains au-dessus de la tête. Dans la méditation, on se concentre sur le Dan Tian. Quand on se concentre sur l'abdomen inférieur, on peut rassembler cette énergie élémentaire. Au commencement, on rassemble le qi pour purifier le corps et plus tard, on rassemble les parcelles de plusieurs substances et on les combine avec son propre de pour développer le corps originel et accroître son gong. Cependant, parlons simplement de rassembler le qi dans la pratique du qigong. Il y a beaucoup de gens maintenant qui enseignent aux autres comment rassembler le qi des plantes. Comme ils confondent le qi et le gong, ils ont pour objectif de rassembler le qi des plantes. Bien sûr, il y a des gens qui savent comment rassembler le bon qi dans le corps. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu veux vraiment guérir de tes maladies, tu dois assimiler la caractéristique de l'univers. Tu dois devenir meilleur. Pour le moins, tu dois devenir un peu meilleur. Et seulement alors, ta santé s'améliorera un peu. Tu commets des mauvaises actions et tu veux te débarrasser des maladies. Comment est-ce possible ? Ça n'ira absolument pas mieux. Alors certains pensent que le qi est le gong. Ils se mettent en face d'un arbre pour en récolter le qi chaque jour. Cela ne leur suffit pas. Dans certaines régions, on ne sait même pas quel qigong on pratique. Les gens se roulent par terre et après cela, ils se relèvent et s'agrippent aux arbres, pieds et mains, pour collecter le qi des arbres, pour collecter le qi végétal. Un maître de qigong a même dit aux gens, « Il y avait un arbre devant ma maison et chaque jour, j'ai récolté du qi jusqu'à ce qu'il en meure. » Cela voulait dire qu'il était capable de collecter du qi. Il y avait aussi ce maître de qigong qui... Aussi dans le nord-est, j'ai vu un bosquet de pins verts dans un parc. Je ne sais pas quel qigong ces gens pratiquaient. Ils couraient tout autour et criaient comme des fous. Après, ils s'arrêtaient. Mains et pieds étendus, ils enserraient les arbres pour recueillir le qi. En à peu près 6 mois, tout ce bosquet de pins est mort. Les pins sont pourtant verts toute l'année, mais tous s'étiolèrent, tous devinrent jaunes et tous moururent. Je vais parler de la chose suivante. Durant la pratique, Beaucoup de gens ont le pouvoir supranormal de lire dans les pensées. Ou, dans un certain état, leur esprit s'ouvre un peu. Alors, ils sont en mesure de communiquer avec de nombreux êtres vivants. C'est pourquoi certaines personnes disent qu'un arbre ou une plante leur a parlé. Cela semble très mystique. Mais d'un autre côté, si ce que dit le bouddhisme à propos des six voies du samsara est vrai, quelle différence y a-t-il entre l'entité vivante se trouvant dans un arbre et celle se trouvant dans un être humain? Alors, selon les religions, si tu fais une telle chose, tu commets un méfait. Tu voles ce qui appartient aux autres, n'est-ce pas? Ce n'est même plus du vol. Si cela concernait les êtres humains, ce serait du vol. Mais cela est pur brigandage. Si tu le fais mourir, n'est-ce pas un meurtre? Certaines personnes peuvent dire, ne dites-vous pas quelque chose de trop mystique ici? Non, ce n'est pas mystique. Vous savez, nos scientifiques actuels ont déjà une bonne compréhension des plantes. Ce n'est plus la compréhension qu'on en avait auparavant, quand on croyait que les plantes étaient des formes de vie inférieures. En fait, actuellement, les botanistes ont découvert que les plantes, les herbes et les arbres ont leur propre activité sociale. De plus, ils disposent aussi de fonctions sensorielles, comme celles des êtres humains. Et ils ont aussi des pensées. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent. Par exemple, en fait, les scientifiques à travers le monde, les botanistes à travers le monde, tous font des recherches là-dessus. Un botaniste américain, ce n'est pas un botaniste, il travaille en électronique et fait des recherches sur les détecteurs de mensonges. Il aide la police secrète de différents pays à utiliser des détecteurs de mensonges. Un jour, poussé par une impulsion subite, il a décidé de prendre les deux pôles d'un détecteur de mensonges et d'en attacher les pinces à une plante. Cette plante est appelée un agave. C'est une sorte de fleur. Quand il a eu fixé les pinces, il a versé un peu d'eau sur les racines de la plante et découvert que la pointe du détecteur de mensonges dessinait rapidement une courbe sur le papier. À ce moment-là, il a été vraiment surpris. Lorsqu'on teste un être humain, le déclenchement subit d'une excitation dans le cerveau humain peut produire un tracé de ce genre. Quand il a versé de l'eau sur les racines de la plante, celle-ci s'en était réjouie. Parce qu'une plante a besoin d'eau. Lorsqu'il a arrosé d'eau, elle a éprouvé du contentement. À ce moment-là, il a été vraiment surpris. Il avait envie de courir dehors dans la rue et de crier. Les plantes ont des émotions. Elles connaissent la joie. Inspiré par cette intuition, il a fait beaucoup d'expériences. Des expériences dans des domaines très variés qui toutes ont vérifié ce fait. Il a fait d'autres expériences aussi. Une fois, il a fixé les pinces du détecteur de mensonges sur une plante et s'est dit « Quelle expérience devrais-je faire ?»« Bien, brûlons un peu ces feuilles pour voir quelles seront les réactions. » Dès qu'il a eu cette pensée, avant même qu'il soit allé chercher du feu pour la brûler, la pointe du détecteur de mensonges avait déjà dessiné une courbe. Une personne produit une courbe semblable quand elle expérimente une peur soudaine, quand elle craint pour sa vie, comme lorsqu'on crie au secours. Lorsqu'il a eu l'idée de la brûler, elle l'a su et a appelé à l'aide. Pourtant, il n'avait rien dit et n'avait rien fait, mais la plante avait déjà connaissance de sa pensée. Réfléchissez, est-ce que cela ne dépasse pas les êtres humains? Elle sait ce que le cerveau humain est en train de penser. Elle a le pouvoir de télépathie. Elle est même au-delà des êtres humains. Bien sûr, le scientifique n'a pas fait cette expérience seulement une fois. Il a répété de nombreuses fois. Il a conduit aussi de nombreuses autres expériences. Par exemple, il a mis deux plantes l'une à côté de l'autre et a demandé à l'un de ses élèves de piétiner lourdement l'une des plantes. La plante a été écrasée en présence de l'autre. Ensuite, il a déplacé la plante qui n'avait pas été écrasée dans une autre pièce. Il a demandé à cinq élèves d'entrer dans la pièce l'un après l'autre. Pour observer la réaction de la plante, il a connecté le détecteur de mensonges. Quand les quatre premiers élèves sont entrés, il n'y a eu aucune réaction. Dès que le cinquième étudiant est entré, la plante a réagi et la pointe du détecteur de mensonges a tracé une courbe. Un tel tracé est produit par un être humain lorsqu'il a vraiment peur, lorsqu'il tremble de peur, comme s'il voyait quelque chose de terrifiant. Dans le passé, si quelqu'un avait dit que les plantes ont des yeux, que les plantes peuvent parler, que les plantes peuvent reconnaître les gens, cela aurait été taxé de superstition. N'est-ce pas ce que les scientifiques ont découvert à présent ? Quand l'étudiant est arrivé de l'extérieur, la plante a su tout de suite qu'il était celui qui avait écrasé l'autre plante. Elle a eu peur d'être écrasée, de sorte qu'elle tremblait de peur. Elle était effrayée. Nous avons toujours pensé que l'homme est un être vivant supérieur, avec des organes et des fonctions sensorielles, et une pensée. Où sont les organes d'une plante ? Comment peut-elle reconnaître les gens ? Bien sûr, si les scientifiques essaient de rechercher cela, je dis que cela prendrait quelque temps jusqu'à ce qu'on le découvre. Mais après tout, on a déjà compris que ces êtres vivants-là ne sont pas aussi simples que nous l'imaginons. Mais actuellement, ce n'est pas tout. On a aussi découvert que des oiseaux et des animaux ont des relations sociales et un langage simple. Je suis en train de parler du principe suivant. À mesure du développement scientifique, l'humanité en vient constamment à gagner de nouvelles connaissances sur elle-même. Elle se perfectionne constamment et en même temps, elle arrive à obtenir de nouvelles connaissances sur l'environnement matériel dans lequel nous vivons. La première compréhension n'est pas nécessairement la vérité absolue. Mais souvent, à cause de l'éducation reçue dans le passé, il y a des gens à l'esprit rétréci. Dès qu'ils sont arrivés à comprendre une chose, leur compréhension se fige facilement. Il est très difficile pour des personnes de ce genre d'y croire. Nous venons de parler de recueillir le qi. Si tu regardes cela de ce point de vue-là, si tu as fait mourir une plante, n'est-ce pas un meurtre ? Si tu l'as chargé de qi pathogène, n'est-ce pas aussi commettre une mauvaise action ? C'est tout à fait pareil. C'est la même chose. Et c'est aussi un méfait. Et tu dis que tes maladies peuvent s'améliorer ? Cela est le principe. Même du point de vue des gens ordinaires, c'est aussi un méfait. Tu as fait mourir un arbre, n'as-tu pas endommagé le bien public ? N'as-tu pas abîmé l'espace vert ? Pour en parler plus sérieusement, n'as-tu pas perturbé l'équilibre écologique ? Si plus de gens se mettaient à le faire, l'équilibre écologique serait détruit, n'est-ce pas ? Simplement pour expliquer ce point. C'est un méfait de quelque façon que tu le regardes. Il y a beaucoup de chi dans l'univers. Recueille-en tout ce que tu veux. Toi aussi, tu es un élément de l'univers. Vas-y et recueille du chi. Pourquoi dois-tu prendre ce qui appartient à d'autres ? J'ai discuté de cette question aussi pour rétablir la réputation du Qigong, la réputation du milieu du Qigong. Parler de toutes ces confusions apportera, à mon avis, un bénéfice au milieu du Qigong. C'est tout ce que je dirais à ce propos. Ensuite, parlons d'une autre question, la question du circuit céleste. Hier, nous avons déjà commencé à apprendre l'exercice du circuit céleste de Falun. Le quatrième exercice. Alors aujourd'hui, nous parlerons du circuit céleste. Le circuit céleste est en fait un terme de l'école taoïste. Nous l'appelons tourner le grand Falun. Mais le circuit céleste est un terme bien connu, aussi nous l'utiliserons. Nous parlerons du circuit céleste. La forme de circulation du circuit céleste est différente dans chaque système de cultivation. Même si le grand circuit céleste parcourt une fois tout le corps, les circuits sont différents dans chaque système de cultivation. J'ai découvert que la façon dont ils circulent dans les systèmes de cultivation de la porte singulière est même encore plus étrange. Peu importe comment il passe à travers tout le corps, il doit le parcourir une fois entièrement, complètement, des mains jusqu'aux pieds, des jambes jusqu'aux deux bras, y compris la tête. Seulement alors, cela comptera comme un tour du grand circuit céleste. Commençons par le petit circuit céleste. Certains pensent que s'ils parviennent à ouvrir par la pratique le petit circuit céleste, ils ne sont pas mal et que leur gong est très haut. En fait, ce n'est rien. Le petit circuit céleste appartient entièrement au niveau de la guérison et du bien-être. Cela veut dire que c'est simplement quelque chose au niveau de la pratique du qi. Si le petit circuit céleste est dégagé, c'est que tu as pratiqué le qi plutôt bien. De plus, ce petit circuit céleste, cette sorte de circuit céleste, est un circuit céleste superficiel créé en joignant les deux méridiens jeûnent et doux. Ou peut-être pas seulement les méridiens jeûnent et doux. Comme tu le sais, il y a deux méridiens de chaque côté à la fois de jeûne et de doux. Même si tu arrives à joindre ensemble les cinq méridiens de la face avant et de la face arrière, c'est encore superficiel. C'est pourquoi tout cela est qualifié de circuit céleste superficiel. Dans la cultivation authentique véritable, par le passé, ceux qui cultivaient par le Dazuo ou Dachan, l'école taoïste appelle Dazuo la méditation assise en lotus. Les écoles bouddhistes appellent Dachan la méditation profonde. S'appuyer véritablement sur la méditation, cela veut dire qu'ils utilisaient la méditation profonde sans aucun mouvement des mains comme moyen de cultivation. Il y avait aussi une forme de circulation du circuit céleste. Cette forme de circuit céleste n'est appelée ni le grand ni le petit circuit céleste. Simplement, il y a circulation, et celle-ci ne passe pas à travers les deux méridiens de jeûne et doux. Elle circule à l'intérieur et dégage la couche extérieure ouvrant tout le corps. Un méridien entraîne une centaine de méridiens, comme par exemple celui qui va du palais Niwan, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, de la glande pinéale, au Dantian. Le Dantian est dans l'abdomen inférieur. Le méridien circule autour du Niwan, descend et tourne autour du Dantian en faisant un cercle complet à l'intérieur. Ceci est le véritable circuit céleste dont on parlait dans le passé et qu'on pratiquait dans la méditation. Après une longue pratique, ce circuit céleste n'est plus comme un fil très mince. Graduellement, il s'élargit, il devient de plus en plus large pour finalement se stabiliser à un certain diamètre et former un flux d'énergie. Il est très puissant et graduellement, il s'étend à l'extérieur. Peu à peu, il entraîne tous les canaux d'énergie du corps de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, nous avons débuté en discutant du petit circuit céleste. Le petit circuit céleste appartient en réalité entièrement au niveau de la guérison et de la mise en forme. Maintenant, continuons et parlons du grand circuit céleste. Le grand circuit céleste, comme je viens de le dire, accomplit un tour complet dans le corps humain. Il est ce qu'on appelait dans le passé les vaisseaux merveilleux ou les huit méridiens. Le circuit complet compte comme un tour du grand circuit céleste. Ce dont nous parlons est beaucoup plus vaste que cela. Je dis que le Falun Gong est pratiqué à un très haut niveau depuis le tout début. Sa pratique évite complètement le Qigong, le niveau le plus inférieur de la cultivation. C'est un Xiaolian authentique. C'est pourquoi tout cela est complètement mis de côté. Tu cultives et pratiques à un haut niveau. Vous savez, au niveau inférieur du Xiaolian, il ne s'agit pas seulement de guérison, de mise en forme et de nettoyage du corps. Tu dois aussi établir les fondations, former une série de choses et de mécanismes avant de pouvoir cultiver un haut niveau. Et tout cela, nous avons déjà commencé à l'implanter en chacun. Pour certains, c'est déjà fait. Pour certains, on va l'installer maintenant. Ton corps sera nettoyé et ces choses seront implantées en toi. Cela veut dire que tu n'as pas à les pratiquer toi-même. Je te pousse au-delà de ce niveau. Tu seras poussé là. Sinon, il n'y aura pas assez de temps. Si durant 10 jours, en 10 leçons, ou dans un séminaire de 8 jours, tu avais encore à pratiquer le qi, je dis que ce serait plutôt mauvais. Tu aurais à pratiquer le qi pendant encore plusieurs années avant de pouvoir venir apprendre. Cela ne marcherait pas. C'est pourquoi tu n'as plus à pratiquer de tels exercices. Nous avons la capacité d'accomplir cela, mais c'est aussi la raison pour laquelle nos exigences envers chacun sont très hautes. Les exigences pour toi sont hautes. Tu dois considérer cette question sérieusement. Tu dois te traiter toi-même et te considérer comme un pratiquant avant de pouvoir l'obtenir. Autrement, si tu viens à ce séminaire avec des motifs variés, tu ne l'obtiendras pas. Ce ne sont pas des choses qui appartiennent au corps d'une personne ordinaire. Certains même m'ont dit « Maître, une personne de ma famille n'est pas venue, mais elle veut pratiquer le Falun Gong aussi. Pouvez-vous lui donner une roue ? Et nous payerons aussi la taxe du séminaire. » Tu veux acheter une roue pour quelques dizaines de yuan? Des choses aussi précieuses qui m'appartiennent, cela semble ridicule, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Bien sûr, tu n'as pas étudié, aussi je ne t'en blâme pas. Tu ne savais pas. Nous pouvons donner des choses très précieuses à un pratiquant, inconditionnellement. Mais si tu n'es pas un pratiquant, même si tu allais jusqu'à dépenser des milliards et des milliards, tu ne pourrais pas l'acheter, parce qu'il n'est pas permis de le donner aux gens ordinaires. Ainsi, comme je le dis, le grand circuit céleste ainsi, dans la circulation de notre grand circuit céleste, beaucoup de choses circulent automatiquement. Nous ne parlons pas simplement de quelques méridiens. Nous exigeons qu'une centaine de méridiens soient dégagés et reliés. Tous les méridiens dans le corps, dans tout le corps, de l'intérieur vers l'extérieur, sont mis en circulation et fonctionnent simultanément. C'est pourquoi, depuis le tout début, j'ai dit que notre pratique vise quelque chose d'immense. Depuis le tout début. En fait, dans le premier exercice, tous les méridiens doivent être entièrement ouverts. Toutes les régions bloquées doivent être pour toi complètement dégagées. Puis, dans le circuit céleste du Falun, tous les canaux de ton corps doivent commencer à fonctionner comme un tout. Nous pratiquons à un haut niveau depuis le tout début. Nous nous dirigeons directement vers la pratique du gong. En fait, dès que le grand circuit céleste commence, vraiment, enseigner le grand circuit céleste est déjà le véritable surlien. Mais au cours de toutes ces années, personne ne les a enseignés. Même si certains en parlent et expliquent le trajet du grand circuit céleste, ils ne sont pas capables d'installer quoi que ce soit et tu ne pourrais pas l'ouvrir toi-même par la pratique. Même si tu sens qu'il circule, c'est seulement superficiel. Ça n'a aucun effet. Par conséquent, ce n'est pas la pratique du gong. Ce n'est pas le surlien. Pour un surlien authentique, la première étape est le grand circuit céleste. Parlant du circuit céleste, au passage, mettons en évidence quelque chose d'autre. Je viens de dire que dans la méditation, le circuit céleste s'étend de l'intérieur vers l'extérieur grâce au fait qu'un méridien entraîne 100 méridiens. Alors dans l'école bouddhiste, on ne cultive que par la méditation. Chez ces pratiquants, il y a aussi une circulation à travers les méridiens. Mais elle n'est simplement pas connue des gens ordinaires. Shakyamuni n'en a pas parlé parce que cultiver dépend de soi-même et que le gong dépend du maître. De plus, il a enseigné le nirvana. On n'emporte pas le corps. C'est pourquoi il n'a pas parlé du tout de cette partie. Ainsi, la circulation qui lui est propre commence au sommet de la tête, au point d'acupuncture Baihui. Et une fois que celui-ci est débloqué, elle descend en spirale dans le corps. Voilà son trajet. Plus tard, certains l'ont découvert. Ils ont dit que le méridien de la ceinture n'est pas un méridien de la ceinture, qui descend en spirale. Ce n'est pas pareil. Le méridien de la ceinture est simplement le méridien de la ceinture. Il s'agit d'une pratique de l'école taoïste. Dans les écoles bouddhistes, il descend en spirale. Voilà le trajet du méridien dans la religion bouddhiste. Dans le tantrisme, à savoir le lamaïsme, on cultive le méridien central. D'autres disent qu'il n'y a à vrai dire aucun méridien central dans le corps humain. En fait, il n'y a pas de méridien du grand ou du petit circuit dans le corps humain. Le petit circuit céleste n'existe pas non plus. C'est seulement parce que tu relies entre eux les méridiens qu'il y a une telle circulation. Grâce à cela, les circuits se mettent à exister. Cela signifie que le méridien central, à vrai dire, n'existe pas. Cependant, tout le monde sait qu'il y a plus de 10 000 méridiens verticaux, horizontaux et diagonaux, ainsi que des ramifications plus petites. Une fois que tu les as tous reliés entre eux, rectifiés et élargis, ne forment-ils pas le canal central ? C'est ainsi que celui-ci est formé. Alors quel rôle joue ce canal central ? Ce méridien central joue le rôle d'un axe et permet de mettre en mouvement à sa périphérie quelques roues. Mais ces roues ne sont pas des entités substantielles, c'est plutôt comme des méridiens. Ainsi, le méridien central est utilisé comme un axe de rotation et les roues qui tournent sur un plan horizontal ouvrent tous les méridiens du corps de l'intérieur vers l'extérieur. Tel en est le trajet. Voilà une brève introduction à ce sujet. Maintenant, revenons à nouveau à notre grand circuit céleste. Avec le grand circuit céleste, on commence vraiment la pratique du gong. Ainsi, dès qu'une personne pratique le gong, de nombreux changements apparaîtront les uns après les autres dans le corps du pratiquant et des états très différents surgiront. Par exemple, dans la véritable circulation du grand circuit céleste, quand celui-ci a été ouvert par le Xiaolian, un certain état apparaîtra. Lequel ? Vous savez, dans beaucoup de livres concernant la cultivation du Tao, il y a une expression « voler et s'élever en plein jour ». Dans le passé, les pratiquants de gong savaient aussi que certains flottaient dans les airs. Ces choses existent, en effet. Si une personne veut l'éviter, à mon avis, il n'y a rien de plus simple. Dès que ton grand circuit céleste est ouvert, tu seras capable de t'élever dans les airs. C'est aussi simple que cela. Cependant, certains disent, dans la pratique du Falun Gong, tous les méridiens sont ouverts et reliés. Depuis le tout début, c'est quelque chose de puissant. Pourtant, je n'ai jamais vu quiconque s'élever dans les airs. C'est vrai, en général, tu ne le verras pas en public. De plus, on ne peut utiliser cela à sa guise pour se mettre en valeur. Cependant, il y a encore une autre question. Si tu cultives et pratiques dans les montagnes ou dans les endroits sauvages, loin de la société humaine ordinaire, tu es libre de disposer de n'importe quel pouvoir que tu as développé. Ils ne seront pas verrouillés. Mais si tu cultives et pratiques dans la société ordinaire, ceux-ci seront verrouillés. Tu ne peux pas être supranormal. Si tu volais à l'extérieur de ci, de là, toute la journée, serais-tu une personne ordinaire ? Les gens te regarderaient comme un immortel. Tes attachements à la célébrité et à l'intérêt personnel, tes sentiments de suffisance surgiraient, et toi-même, tu te considérais même comme un immortel. Serais-tu alors encore capable de cultiver ? Tu ne le pourrais plus. Il n'est pas permis de déranger arbitrairement et sans condition la société humaine ordinaire. Même si tu es un pratiquant, ce n'est normalement pas permis. Les gens qui sont capables de conserver ce pouvoir supranormal ne le manifesteront pas non plus arbitrairement. Parmi nos disciples du Falun Gong, il y a de nombreux exemples de ce type. Beaucoup de gens sont capables de l'éviter. Par exemple, à Pékin, il y avait une personne qui me disait « Maître, pourquoi mon corps est-il si léger ? Quand je marche dans la rue, c'est comme si mes pieds ne touchaient pas le sol, comme si j'étais transporté par une grue. En fait, beaucoup de gens dans ces séminaires sont dans cet état depuis hier. Lorsqu'ils marchent, ils sentent que tout leur corps est léger. N'est-ce pas comme cela? C'est garanti. Flotter, c'est très agréable. La sensation en est... Auparavant, j'ai dit que beaucoup de gens, avec l'accumulation des années, ne connaissent plus la sensation d'être sans maladie. Quand il n'y a vraiment aucune maladie, la sensation du corps est très confortable. Cela veut dire que lorsque le grand circuit céleste est ouvert, on peut atteindre cet état. Un élève dans le Shandong m'a dit « Maître, pourquoi mon corps flotte-t-il comme un ballon? Lorsque je mets une couverture sur moi, même la couverture s'élève dans les airs avec moi. » Pas seulement cela. Quand j'enseignais dans un séminaire dans le Guizhou, il y avait une élève, une vieille femme de la cinquantaine. Elle avait deux lits dans sa chambre, l'un ici et l'autre là. Comme elle faisait la méditation assise sur un lit, elle s'est envolée sur l'autre et a pensé « Comment est-ce que je suis arrivée à voler jusque-là? Je dois m'en retourner. » Dès qu'elle eut cette pensée, elle est revenue de la même façon. Alors elle m'a demandé ce qui s'était passé. Tout cela n'est-il pas bien? Il y a de nombreux exemples semblables, un grand nombre. Beaucoup d'élèves m'en ont fait part. Quand j'étais dans la province du Shandong, il y avait une élève de la ville de Qingdao qui m'a écrit dans son rapport d'expérience ce qui va suivre. J'en étais plutôt amusée quand je l'ai lu. Dans ce séminaire, j'avais parlé aussi de comment la pratique du grand circuit céleste peut nous permettre de nous élever dans les airs. Elle travaillait dans une usine et un jour à midi, durant la pause, assise dans le bureau de la réception de l'entreprise, elle pratiquait. Dans ce bureau, il n'y avait personne d'autre. Elle était assise là, seule, pratiquant. Aussitôt qu'elle s'est assise, le lit avait un matelas ressort et était très mou. Elle était assise sur le lit. Il y avait aussi quelques couvertures sur le lit pour la personne de service. Comme elle était assise là, elle s'est mise à s'élever dans les airs. Dès qu'elle s'est élevée, elle a pris peur. « Comment me suis-je élevée en l'air ?» Dès qu'elle a eu peur, bang, elle est tombée. Alors elle a pensé. Le maître a dit qu'on peut flotter, il a dit de ne pas s'effrayer. Alors elle s'est mise à nouveau à flotter, et comme elle flottait, elle s'est mise à penser. « Où est-ce que je m'envole ?» Avec cette crainte, elle est tombée à nouveau. Ainsi, son esprit n'était pas stable. Pas de problème. Si je flotte, qu'il en soit ainsi. Et pensant de cette manière, elle s'était levée à nouveau. Bref, durant toute la pause de midi, elle n'a cessé de rebondir en haut et en bas, comme ceci, à une hauteur de plus de 1 mètre, en haut, en bas, sans arrêt. Toutes les couvertures sur le lit ont été jetées à terre. Boum, boum, en tombant sur le sol. Alors, quand la pause de midi a été terminée, la sonnerie a retenti et elle a vu les gens revenir. Elle s'est dit à elle-même, « Mieux vaut qu'on ne me voit pas comme cela. Redescendons avant qu'on voit ce qui m'arrive. » Et elle est redescendue. Dans son rapport d'expérience, elle me l'a raconté. Elle a dit, « Maître, j'ai eu peur. À votre avis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne savais pas où je m'envolais. Comme ces choses sont contrôlées par l'intention, si tu veux descendre, alors tu descends. » Parlant de ceci, laissez-moi mentionner en passant que des gens avec des pouvoirs supranormaux apparaissent habituellement chez des gens situés aux deux extrémités de l'échelle des âges, chez de nombreuses vieilles personnes, spécialement les femmes, mais aussi chez beaucoup de jeunes enfants. On le rencontre plus facilement et plus fréquemment. Dans la tranche d'âge du milieu, on le voit plus rarement, car les jeunes, plus particulièrement les jeunes hommes, ont tendance à avoir plus d'attachement. Ils pensent « j'ai encore à gagner tant et tant d'argent ou à atteindre tel ou tel but dans la société ». Alors, lorsqu'ils obtiennent des pouvoirs supranormaux, bien souvent, ils les utilisent pour accomplir leur but personnel dans la société humaine ordinaire. Quand ils ont ce désir, c'est fini. Ce pouvoir supranormal sera verrouillé immédiatement. En fait, les pouvoirs supranormaux de nombreuses personnes sont verrouillés dès qu'ils apparaissent, avant même que la personne n'ait eu la chance de les essayer. Parce que nous savons que tu n'es pas débarrassé de cet attachement. De plus, au début de la pratique de Gong, ce genre de choses apparaît inévitablement. Donc au début, comme tu ne t'es pas encore débarrassé du désir de te mettre en valeur et de différents attachements, tu es prêt à te faire admirer. C'est ce que tu veux faire. C'est pourquoi il est difficile de les garder. Exactement comme dans l'exemple que j'ai donné. C'était une vieille femme. S'il s'était agi d'un jeune garçon, lorsque la sonnerie a retenti, il aurait pensé « Oh, parfait, viens, regarde comment je pratique bien. » La différence est là, simplement. Dès que cet attachement surgit, cela ne marche pas. Tu vois, il lui manque juste un tout petit peu. En même temps, lorsque le grand circuit céleste est ouvert, Bien sûr, comme je l'ai dit, quand cet état apparaît, chez la majorité des élèves, les pouvoirs supranormaux sont verrouillés. Évidemment, ils ne sont pas verrouillés de la manière habituelle, comme les autres pouvoirs supranormaux qui sont verrouillés et mis à l'écart dans un certain endroit. Concernant ce pouvoir supranormal, on peut verrouiller la pointe de tes doigts ou de tes orteils ou changer de place. On ne peut pas verrouiller toujours le même endroit, sinon celui-ci sera bloqué. Alors on change de place. On verrouille cette partie aujourd'hui, une autre demain. De toute façon, on ne cesse de te verrouiller. Il ne te sera pas facile de t'élever dans les airs. Bien sûr, bien que tu ne puisses pas l'éviter, tu sens que ton corps est devenu léger et aérien. Tu n'es pas fatigué quand tu grimpes les montagnes. Tu n'es pas fatigué quand tu montes les escaliers. Dans le passé, c'était dur pour toi de monter les escaliers et tu en perdais le souffle. Maintenant, quand tu montes les escaliers, les autres ne peuvent pas te suivre et tu n'es même pas essoufflé, n'est-ce pas? Alors juste avant que la circulation se fasse librement, avant qu'elle soit partout dégagée par la pratique, si la partie frontale du corps est plus dégagée, tu ne pourras pas t'asseoir stablement. Tu pencheras en arrière. Si c'est la face arrière qui est plus dégagée, tu sentiras que la partie avant est très lourde et tu pencheras vers l'avant. Voilà ce qui apparaîtra. Si tout est très bien dégagé, tu auras tendance à faire des légers bonds, à avoir l'impression que tu es tiré vers le haut. Voilà quel état surgira. Nous venons de discuter d'un état que le grand circuit céleste peut faire surgir chez nos pratiquants. De plus, si le grand circuit céleste a été dégagé, cela peut amener aussi une sorte de pouvoir. Cela peut induire une sorte de pouvoir supranormal. Quel pouvoir supranormal? Par exemple, quand on pratique le gong, lorsque notre grand circuit céleste fonctionne, à la longue, la circulation du circuit céleste engendra un courant d'énergie, un flux d'énergie. Parce que son énergie est constamment renforcée et renouvelée, elle devient de plus en plus parfaite. Elle se transforme en un pouvoir supranormal qui a la forme d'une bande. C'est un courant d'énergie en forme de bande. Cela veut dire qu'elle engendre un pouvoir supranormal qui prend la forme d'une bande. La densité de ce pouvoir supranormal est très grande. Elle s'accroît de plus en plus et sa composition moléculaire est aussi très fine. Sa densité devient de plus en plus grande, elle peut s'étendre sans limite et peut aussi se réduire. Si cette sorte de pouvoir supranormal était mis à l'extérieur du corps, il devient le pouvoir de télékinésie, car il a déjà cet effet à l'intérieur du corps. Parmi les pratiquants de l'école taoïste, on considère le corps humain comme un microcosme. Lorsque dans ce microcosme apparaît un processus de circulation, comme il s'agit d'un univers, alors l'intérieur de ton corps, je le dis, est probablement très semblable à l'univers extérieur. Tout le monde sait, actuellement, lorsque nous regardons le Soleil, que les 9 planètes principales tournent autour du Soleil, que toutes les planètes tournent autour d'une étoile fixe, et que dans d'autres univers et dans d'autres voies lactées, il y a la même situation. De plus, ces voies lactées tournent aussi. Alors réfléchissez. Lorsque les électrons tournent autour du noyau atomique, n'est-ce pas semblable à la rotation de la Terre autour du Soleil? Si on le considère à une échelle extrêmement microscopique, s'il y avait une loupe de cette taille, une loupe avec un grossissement aussi énorme, on pourrait voir ce qu'il y a sur l'électron, ce qu'il y a sur cette petite boule et quel est l'état du noyau atomique. À l'heure actuelle, on n'a pas ce genre de capacité et on ne peut pas l'observer. J'ai dit, lorsque Shakyamuni a cultivé jusqu'à un très haut niveau, il a prononcé 2 phrases. Si grand qu'il n'y a pas d'extérieur, si petit qu'il n'y a pas d'intérieur. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Si grand que je ne peux pas voir la limite de l'univers, si petit... Pour les gens ordinaires, les Tathagatas sont déjà à un très haut niveau. Les Bouddhas que les gens ordinaires étaient autorisés à connaître dans le passé étaient simplement des Tathagatas. Au-delà, tu n'es pas autorisé à les connaître. Ils ne pouvaient pas voir les limites de l'univers. Si petit qu'en descendant à l'échelle inférieure, ils ne pouvaient pas voir le plus infime, la particule microscopique originelle de la substance la plus infime. Les yeux de ce grand éveillé étaient déjà tout à fait perçants. Jusqu'à quel point sa vision était-elle pénétrante? Il a parlé de la théorie des 3000 grands mondes. Il a dit qu'il y a 3000 grands mondes dans la Voie lactée. Il a dit aussi qu'il y a 3000 grands mondes dans un seul grain de sable. Comme dans notre Voie lactée, il y a 3000 planètes sur lesquelles vivent des êtres vivants, semblables à ceux de la race humaine. Il y a 3000 planètes qui ont un corps matériel. Il les a appelés les 3000 grands mondes. Alors il a vu qu'à l'intérieur d'un grain de sable, il y avait aussi 3000 grands mondes. Ce qui signifiait qu'à l'intérieur d'un grain de sable, il y a aussi 3000 particules microscopiques où la vie existe, tout comme les planètes de notre Voie lactée. C'est ce que ça veut dire. Et il a dit aussi, bien sûr, concernant l'extrêmement petit, il a vu jusque-là, mais peut-être pas seulement jusque-là. Parce que si nous investiguons plus loin, à un niveau encore plus profond, nous le verrons. Shakyamuni a dit qu'il y avait 3000 grands mondes dans un grain de sable. Alors, selon les paroles de Shakyamuni, dans les 3000 grands mondes qui existent dans un grain de sable, n'y a-t-il pas encore des rivières ? N'y a-t-il pas encore du sable ? Alors, dans ce sable, n'y a-t-il pas encore 3000 grands mondes ? Alors, à l'intérieur du sable de ce sable, n'y a-t-il pas encore 3000 grands mondes ? N'y a-t-il pas encore 3000 grands mondes à l'intérieur du sable de ce sable lui-même à l'intérieur du sable ? Si tu continues à creuser ainsi, tu découvriras qu'il n'y a pas de fin. Alors Shakyamuni a dit, si grand qu'il n'y a pas d'extérieur, si petit qu'il n'y a pas d'intérieur. Il n'a pas pu voir la matière originelle la plus microscopique. Vous savez, ici, nous ne parlons pas de religion ou de mysticisme, ou simplement d'une compréhension restreinte du Qigong. Vous savez, les physiciens actuels, nous sommes aussi dans un monde matériel, sont en train de comprendre petit à petit notre monde matériel. Nos scientifiques aujourd'hui ont découvert qu'il existe des molécules. Mais si les molécules existent, de quoi sont composées les molécules ? On a découvert qu'il existe des atomes qui composent les molécules, et composant les atomes, on a découvert qu'il y a des noyaux atomiques, des électrons et des neutrons. Et poursuivant la recherche à un niveau encore plus profond, on a découvert les quarks et ensuite on a découvert les neutrinos. À un niveau encore plus profond, que découvrirons-nous ? Le développement de la science actuelle a progressé jusque-là, mais on est très éloigné d'une véritable compréhension de l'origine de la matière, de la substance qui est à l'origine de la matière. Nous n'avons pas parlé du tout de manière idéaliste, n'est-ce pas ? Réfléchissez. Si nous acceptons la connaissance de la physique, à mon avis, il n'y a pas de contradiction avec ce qu'a dit Shakyamuni à propos des 3000 grands mondes. Simplement, à présent, nous n'avons pas encore des capacités assez grandes pour le comprendre. Alors, qu'est-ce que je veux dire en parlant ainsi ? Que notre corps humain est aussi un petit microcosme. Alors, dans ton microcosme, il est possible qu'il existe de nombreux êtres vivants et qu'il y ait bien des choses au-delà de ton imagination. C'est pourquoi, parmi nos pratiquants, il y a beaucoup de personnes qui, après avoir ouvert elles-mêmes leur œil céleste, ont eu la sensation qu'elles couraient vers l'extérieur, le long d'une route longue et large, que de chaque côté, il y avait des montagnes, des rivières, même des poteaux électriques. Il semblait aussi y avoir des gens qui conduisaient des voitures et des gens à cheval. Il y en a eu qui traversaient des villes, fonçant à toute allure. Elles passaient à travers de nombreuses villes. Elles pensaient, comme c'était étrange. Est-ce un fantasme ou quoi ? Mais leur esprit n'engendrait aucune pensée. Dès qu'elles fermaient les yeux, cela devenait ainsi. Ouh. C'est simplement ce qui leur arrivait. Elles couraient vers l'extérieur. Quelques maîtres de Qigong, dans le passé, j'ai eu affaire à quelques pratiquants qui étaient plutôt bons. Quand nous étions ensemble, souvent, nous parlions de ces choses. Bien sûr, les conversations parmi les gens véritablement d'un haut niveau sont en fait réellement intéressantes. L'un disait que dans un port de la peau, il y avait une ville. Il y a une ville sur un poil. Et pas seulement une ville, mais aussi des trains et des voitures qui s'y déplacent aussi. Cela semble vraiment très mystérieux. En fait, nous l'avons dit, bien que notre compréhension du monde matériel, notre physique ne soit pas développée jusqu'à cette échelle microscopique, bien qu'elle ne soit pas encore parvenue jusque-là, même si nous ne l'avons pas compris ou que nous ne sommes pas parvenus à le connaître, je vous dis que cela ne signifie pas nécessairement que ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Vous savez, de nombreuses choses qui, dans le passé, ont été considérées comme de la superstition, ont finalement été mises en lumière. Du point de vue de la physique, c'est de l'extrapolation. Cette extrapolation, cependant, n'est pas fausse. Alors, quelle est la situation à l'échelle microscopique la plus infime ? J'ai déjà dit que dans le passage des molécules à l'atome, dans un être humain, il y a un espace très vaste. Et ce n'est pas seulement le corps humain qui a des molécules et des atomes. Dans cet air invisible, il y en a aussi. Alors si tu pénétrais à travers ceux-ci, si tu pouvais voir le plan complet de leur existence, en fait, ton œil céleste aurait déjà percé cet espace et aurait vu la forme d'existence d'autres espaces. Évidemment, nous n'avons pas un instrument assez grand pour pouvoir observer ces choses maintenant. Nous avons dit qu'il en va aussi de même pour la compréhension de l'homme, de la vie et de lui-même. Regarde une personne. Elle n'est pas ce que nous connaissons maintenant. Examine une personne. Tu ne peux pas croire ce que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Ce que ta théorie n'atteint pas, tu n'y crois pas. À mon avis, ce n'est pas juste. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas voir. Les ondes radio, tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les toucher, tu ne sais pas quelle forme elles ont. Mais quand tu mets la radio, tu les reçois. Comment expliques-tu cela ? Ce que tu ne peux pas voir ou toucher, tu ne le reconnais pas. Tu ne le comprends pas et tu ne le reconnais pas. Si nous pouvions regarder le corps humain avec un microscope, s'il y avait un microscope assez puissant pour regarder le corps humain, tu découvrirais que les gens ne sont pas ce à quoi ils ressemblent. Le corps humain, dans son ensemble, est fait d'innombrables molécules, comme du sable. détachée et en mouvement. La même chose est valable pour cette table ici. Elle n'existe pas comme une surface lisse et solide. Elle est faite d'innombrables molécules, d'atomes, d'électrons. Cette table est en mouvement, mais ses yeux ne te permettent pas de le voir. Ils ne te permettent pas de voir ce genre de forme. Mais maintenant, nous pouvons le voir grâce à des instruments et à des techniques scientifiques. Voilà ce qu'il en est. Nous parlions du grand circuit céleste. Si le corps humain est comme un microcosme, alors à un niveau très superficiel, on découvrira que le flux d'énergie, par son mouvement, peut amener le qi dans ton corps à changer de position. Le qi du cœur va dans l'abdomen, le qi de l'abdomen va dans le dos, alors lorsqu'il fonctionne, le grand circuit céleste peut avoir cet effet de changer les positions. C'est ce qui peut être vu à un niveau superficiel. Si tu voulais le voir à un niveau plus profond, tu découvrirais que les corps de plusieurs de tes structures physiques ont changé de place à l'intérieur. Il y a aussi de nombreux êtres vivants qui peuvent changer de place également. Ça veut dire qu'il peut avoir cet effet à l'intérieur de ton corps. Si on le poussait hors de ton corps, s'il les mettait hors de ton corps, il pourrait déplacer les objets dans notre espace matériel, ce qui est appelé le pouvoir de la télékinésie. Voilà ce qu'il en est. Note que ce n'est pas produit par tes pensées. Certains ne comprennent pas cela du tout. Ils disent « J'y pensais dans mon cerveau et la télékinésie a eu lieu. Comment son cerveau peut-il fonctionner si bien ?» Ils croient que ça fonctionne s'il y pense. Même si certains maîtres de Qigong ont des pouvoirs supranormaux, ils ne savent pas à quoi ceci ressemble. Ce pouvoir supranormal n'existe pas dans ton cerveau. Ce pouvoir de télékinésie est formé par un flux d'énergie circulant dans le grand circuit céleste. Parlant de grand circuit céleste, il y a une autre forme de circuit céleste. Une autre forme de grand circuit céleste qui n'est généralement pas connue des gens ordinaires. Parce que le grand circuit céleste appartient déjà à la cultivation et que ce qui est au niveau supérieur n'est même pas connu de nombreux maîtres de Qigong. Pourquoi ne le connaissent-ils pas? Parce que certains maîtres de Qigong sont des imposteurs. Certains maîtres de Qigong s'asseyent en méditation toute la journée. Autrefois, il a fait la cultivation et a été enseigné par un maître, mais ce n'est pas lui qui a reçu l'enseignement, c'est son esprit secondaire. L'esprit secondaire comprend très clairement, mais il ne sait rien. Il ne connaît aucune théorie, ou bien il en connaît un petit peu, mais pas les détails. Alors il ne peut pas l'expliquer clairement. Cette forme de circulation du circuit céleste peut aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Peu importe s'il tourne dans un sens ou dans l'autre, les deux appartiennent au grand circuit céleste. Ceci est aussi appelé la circulation du circuit du méridien céleste Zhou et est aussi appelé la forme de circulation Tian Kun. Correspondant à la circulation céleste de Zhou, il y a là une autre forme appelée le circuit céleste Mao Yu. Les gens dans le passé n'en parlaient jamais. Tout ceci appartenait au secret des secrets. Très peu de gens connaissaient le trajet et la forme de circulation de cette sorte de circuit céleste. Qu'est-ce que le circuit céleste Mao Yu? Peu de gens le savent. En fait, le circuit céleste Mao Yu est très simple. Si des gens devaient écrire là-dessus dans les sutras, dans les livres de cultivation du Tao, ils seraient capables d'en écrire plusieurs pages. L'enseignement authentique se fait en une phrase, tandis qu'une imitation requiert des milliers de rouleaux. Pour d'autres, c'est le secret des secrets. Vous savez, dans notre conférence, nous t'avons parlé de nombreuses choses que les personnes ordinaires n'étaient pas autorisées à connaître dans le passé. Certains disent que je divulgue des secrets célestes. Ce n'est pas divulguer les secrets célestes. Ici, nous enseignons avec un but. Dans cette période historique, cela doit être fait ainsi. Si un maître de Qigong en parlait à sa guise, sans aucun sens de responsabilité, il divulguerait des secrets célestes et serait puni. Ici, nous en avons parlé dans le but de le faire connaître aux pratiquants, de te rendre capable de cultiver et de pratiquer. Ce dont nous parlons est le fa. Il ne s'agit pas ici de divulguer des secrets célestes. Nous assumons notre responsabilité envers les gens. Les autres regardaient cela comme le secret des secrets. Ici, nous allons le faire connaître en peu de phrases. Vous savez, il y a une caractéristique distinctive dans mes conférences. Je vous parle de principes très profonds dans le langage le plus ordinaire. Je fais de mon mieux pour vous faire comprendre. Je vous en parle sans ambiguïté. Alors parlons du circuit céleste frontière Mao Yu. D'autres peuvent tourner autour du pot pendant une demi-journée. Je vais le dire en peu de phrases. Vous pouvez commencer le circuit céleste Mao Yu de Pai Hui au sommet de la tête ou bien de Hui Yin au périnée. Son trajet suit la frontière entre les phases Yin et Yang. Il ne suit pas le trajet du méridien Qiankun. Le trajet Maoyu est en relation avec le trajet Zewu. Ceci est la rotation de Zewu. Le circuit céleste Maoyu tourne transversalement, c'est-à-dire qu'il va le long de la frontière entre les phases Yin et Yang. Il descend du sommet de la tête, va vers l'oreille, descend de l'oreille à l'épaule, il descend entre les interstices, entre chaque doigt, descend et continue le long de l'extérieur du corps, va sous les pieds, va dans les interstices, entre les orteils, remonte de la plante du pied, va le long des cuisses, dans l'entrejambe, descend à nouveau, va sur la plante de l'autre pied, remonte le long du côté du corps, passe dans l'interstice entre chacun des doigts et circule jusqu'au sommet de la tête. Voilà le circuit céleste Maoyu révélé en peu de phrases. Dans son fonctionnement, il peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Cependant, bien que nous l'ayons expliqué, nous t'en avons parlé pour te le faire connaître, pour t'indiquer que dans le futur, un tel état arrivera. Cependant, tu ne peux pas le pratiquer. Si tu le pratiques intentionnellement, alors ce n'est plus pratiquer le Falun Gong, n'est-ce pas? Si tu le pratiques artificiellement, est-ce qu'on peut dire alors le Fa raffine le pratiquant? Chez nous, le raffinement du pratiquant est automatique. Si tu le pratiques, ne le fais-tu pas toi-même? Il n'y a rien que tu dois faire. Nous t'en avons juste parlé pour que tu le saches. Tu n'as pas besoin d'utiliser une intention quelconque pour le guider et tu n'as pas à faire de mouvement de main non plus. Car nous avons implanté ce mécanisme en toi. Quand le temps viendra, il sera entraîné à s'ouvrir naturellement. Bien sûr, une fois qu'il sera dégagé, tu verras que lorsque tu es assis en méditation, ta tête se balancera. Se balancera d'un côté et de l'autre très légèrement. Si elle se balance de cette manière, si ta tête se balance de ce côté, alors l'énergie coule dans ce sens. Si elle se balance de cette manière-là, alors elle coule dans ce sens-là. La tête va balancer. Vous savez, quand le vrai circuit céleste a été débloqué, vous pouvez aussi hocher de la tête en étant assis. Elle est contrainte par l'énergie. Certains vont aussi se pencher en arrière. C'est dû au fait qu'elle tourne à toute vitesse en sens inverse. Mais ne balance pas ta tête, ne suis pas le flux d'énergie. Tu dois encore te conformer au point clé de l'exercice, rester sans mouvement et être détendu. Laisser l'énergie circuler par elle-même. Nous venons juste de parler du circuit céleste. Alors quel est le but du circuit céleste? Peu de gens y pensent en profondeur et personne ne l'enseigne. Quel est le but du circuit céleste? Quelle que soit l'excellence de ta pratique du circuit céleste et quel que soit le degré d'ouverture de tes méridiens, quel en est le but? Je vous le dis, le circuit céleste n'est pas un but en lui-même. Le but du circuit céleste est d'entraîner le dégagement de tous les méridiens du corps. Dans d'autres systèmes, c'est fait comme cela. Mais dans notre système, tous les canaux du circuit céleste sont en circulation dès le début. C'est pourquoi je vous ai dit que nous pratiquons à un très haut niveau dès le début. N'en est-il pas ainsi? Si quelqu'un a ouvert les méridiens, n'a-t-il pas atteint le but ultime de la pratique? Atteint un niveau très haut? Je dis qu'il en est très loin. Ce n'est rien. Dans d'autres systèmes, il aurait déjà atteint une place assez haute dans la cultivation du Fa de ce monde. Mais dans le nôtre, c'est simplement le commencement. Dès le début, il en est ainsi. C'est pourquoi avoir les méridiens complètement dégagés n'est pas le but non plus. Si le dégagement se poursuit, les canaux dans le corps vont passer graduellement d'une couleur sombre à un état lumineux, éclatant. Petit à petit, l'énergie se transforme et finalement les méridiens s'élargissent. Certaines personnes voient que les méridiens d'un pratiquant de Qigong sont vraiment larges et lui disent « Oh, tu as pratiqué vraiment bien ». Je dis que cela n'est rien, on est loin du compte. Alors jusqu'à quel point les méridiens doivent-ils s'élargir? En fait, travailler sur les méridiens, dégager les méridiens, le but de la circulation du circuit céleste est de dégager les méridiens. Mais l'ouverture des méridiens n'est pas le but. Leur élargissement n'est pas le but non plus. À la fin, comme les méridiens deviennent de plus en plus larges, tous les méridiens s'élargissent en même temps, s'élargissent et s'élargissent. Plus de 100 méridiens, plus de 10 000 méridiens continuent de s'élargir. Pour finir, tous les méridiens fusionnent en un seul et tu as atteint l'état où il n'y a plus aucun méridien, plus aucun point d'acupuncture. Alors seulement tu auras atteint le but ultime de l'ouverture des méridiens. Quand la pratique a atteint cette étape, le corps d'une personne a des méridiens partout et des points d'acupuncture partout. Ou inversement, il n'y a plus nulle part ni méridien ni point d'acupuncture. Le corps tout entier est complètement ouvert de part en part. Ceci est l'état ultime que l'on doit atteindre. Quand on l'a atteint, on est... Bien sûr, une telle personne ne peut plus tomber malade. Supposons qu'elle tombe malade. Si tu veux faire de l'acupuncture, elle n'a même plus de points d'acupuncture. Si tu voulais ponctionner ces points d'acupuncture avec le qigong des arts martiaux, cela ne fonctionnerait pas, puisqu'il n'y a plus de points d'acupuncture, puisqu'il n'y a nulle part où ponctionner. Ce n'est même pas comme dans les films de kung-fu tournés dans notre pays, où quelqu'un qui a pratiqué la cloche d'or ou la chemise de fer est devenu invulnérable jusqu'à ce que sa défense soit transpercée parce qu'il a laissé une ouverture pour le qi. Là, il ne reste même pas une ouverture pour le qi. Le corps tout entier est ouvert de part en part. C'est le véritable et ultime état qui doit être atteint dans la cultivation du Fa de ce monde, dans la cultivation effectuée dans le corps humain. Une personne qui a vraiment atteint cet état a atteint le dernier état de la cultivation du Fa de ce monde. Cela veut dire que cette personne a déjà atteint la pointe du sommet du Fa de ce monde. Alors, si elle continue de cultiver et pratiquer, elle sortira du Fa de ce monde et entrera bientôt dans la cultivation du Fa au-delà de ce monde. Mais il y a un niveau de transition entre les deux. C'est en effet le dernier niveau de la cultivation du Fa de ce monde, mais en même temps, il n'appartient pas à la cultivation du Fa de ce monde, parce que c'est une sorte d'état de transition. Le corps tout entier est entré dans un état appelé le corps de blancheur limpide. Le corps de blancheur limpide n'est pas le corps de blancheur laiteuse. Le corps de blancheur laiteuse est le corps d'une personne qui, lorsqu'elle commence à pratiquer le qi et à s'approcher de la pratique du gong, a atteint un haut degré de purification de son corps, un corps de chair pure, comme celui d'un nouveau-né, tandis que le corps de blancheur limpide est le corps humain qui a été déjà complètement transformé par de la matière de haute énergie. Les cellules de tout le corps ont été remplacées par le gong. Alors cette personne a déjà atteint cet état, le niveau le plus haut du Xiaolian dans le Fa de ce monde. Il est entré dans l'état du corps de blancheur limpide. Vu avec l'œil céleste, le corps d'une telle personne est transparent. Vous savez, lorsqu'on a cultivé et pratiqué jusqu'au plus haut niveau dans le Fa de ce monde, on peut voir que le gong développé dans le corps humain est très complexe. Le corps dans chaque espace a développé un gong extraordinairement complexe. Les pouvoirs supranormaux se sont formés de manière presque complète et paraissent effrayants, parce que le corps est déjà dans un état tout à fait effrayant. Il y a des yeux dans tout le corps, il y a des yeux partout dans le domaine de ce champ spatial. Même les particules les plus petites dans le corps sont toutes du gong et ont la forme d'un corps de Bouddha. De toute façon, il y en a en très grande abondance. Les différents états paraissent très effrayants, mais une personne ordinaire ne peut pas les voir. Pour elle, tu es simplement une personne ordinaire. Si on entre tout à coup dans cet état du corps de blancheur limpide dont je viens de parler, en fait, on est arrivé dans l'état d'un corps sans couleur, dans l'état de corps de blancheur limpide. Soudainement, le corps devient transparent. Tous les pouvoirs supranormaux qui ont été développés auparavant par le Xiaolian sont déposés dans un espace très profond. Ils ne peuvent pas être réutilisés. Ils sont devenus inutiles et sont écartés. Ils sont complètement enlevés. Parlant de cela, je vais souligner ceci. Beaucoup de gens cherchent les pouvoirs supranormaux. Quelle sorte de pouvoirs supranormaux cherches-tu? À l'étape finale du Fa de ce monde, tous les pouvoirs supranormaux développés dans le corps humain doivent être jetés. Aucun d'entre eux n'est utile, quel qu'il soit. Après cela, celui qui poursuit sa cultivation quittera cet état de corps de blancheur de cristal et entrera dans le niveau du Fa d'Anarat, aussi appelé cultivation du corps de Bouddha, ou aussi la cultivation au-delà de ce monde. Car à ce point-là, comme tout le corps a été remplacé complètement par de la matière hautement énergétique, on a déjà atteint un statut, on a déjà transcendé les trois mondes, on a déjà atteint le corps d'Anarat. Un arhat. Par le passé, dans le bouddhisme du petit véhicule, avoir réalisé l'état d'arhat signifiait avoir atteint son statut. Mais pour un pratiquant, ce n'est pas nécessairement la fin. Certains atteignent la plénitude de la cultivation au statut d'arhat, tandis que d'autres cultivent jusqu'au niveau d'un bodhisattva, d'autres cultivent jusqu'au niveau d'un bouddha, et d'autres voire même plus haut. Même si tu es parvenu jusqu'ici dans ta cultivation, tu ne libéreras pas nécessairement ton gong ni n'obtiendras l'éveil. Ceux qui sont capables de cultiver au-delà s'élèveront sur le chemin de la cultivation en étant encore verrouillés, partiellement verrouillés. Ils vont rester partiellement verrouillés et continueront de cultiver vers le haut. Leur œil céleste peut voir et il est possible qu'il y ait d'autres pouvoirs supranormaux qui l'accompagnent. Mais tu ne peux pas être complètement déverrouillé. Tu dois encore t'élever par la cultivation de cette manière. À ce point, les pouvoirs supranormaux nouvellement développés, c'est-à-dire les pouvoirs supranormaux développés à partir de ce corps pur, de ce corps impérissable comme un diamant, sont appelés les pouvoirs divins du Fa de Bouddha. Ils seront utilisés dans le futur. Ils peuvent contrôler des choses dans tous les espaces. Je viens de parler des circuits célestes jusqu'à cette étape. En parlant de cela, je vais vous expliquer un autre problème. Pourquoi, lorsque nous avons cultivé jusqu'à la plus haute forme dans le Fa de ce monde, notre corps entre-t-il dans cet état, l'état du corps transparent, appelé l'état du corps de blancheur limpide? Il est aussi appelé le corps de blancheur de cristal. Il est transparent. Dans le Xiaolian, le corps peut être différencié par les couleurs. Ceux d'entre nous dont l'œil céleste a un niveau relativement élevé et relativement stable peuvent l'observer. Quand tu commences à cultiver et à pratiquer, sitôt que tu as commencé à développer le gong, le premier gong qui apparaît est rouge. Ce rouge est aussi appelé rouge vermillon. Rouge, orange, jaune, vert, indigo, bleu, violet, avec ou sans couleur. Il y a en tout 9 couleurs, n'est-ce pas? Puis lorsque tu atteins la dernière couleur, tu sortiras de la cultivation du Fa des trois mondes. C'est-à-dire que le niveau des gens peut être déterminé par la couleur. À quoi ressemblent les couleurs lorsque tu cultives au-delà du Fa de ce monde? Tu commences à nouveau à t'élever aussi dans la cultivation, à partir du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, de l'indigo, du bleu, du violet. Mais ce rouge et ce jaune sont entièrement différents de ceux que tu avais quand tu cultivais à l'intérieur du Fa de ce monde. Ceci ressemble aux teintures et aux pigments des gens ordinaires. Par contre, lorsque tu cultives à un haut niveau, les couleurs sont transparentes. Elles sont extrêmement belles. C'est aussi rouge, mais transparent. Plus le niveau est haut, plus la couleur devient transparente. Elle devient plus parfaite, plus fine. Les couleurs deviennent de plus en plus belles. Ainsi, le niveau de quelqu'un peut être envisagé de plusieurs manières. Il reste encore un peu de temps et nous devons encore discuter d'un problème. Nous allons discuter d'une question très très cruciale, à savoir, celui qui pratique obtient le gong. Tout au long de ces derniers jours, j'ai insisté sans arrêt sur le fait que tu dois cultiver et pratiquer en toute connaissance et consciemment. Pour cultiver ton propre toi, tu dois être conscient. Si ta conscience n'est pas claire, nous ne te sauverons pas. C'est pourquoi dans le passé, nous n'avons pas autorisé des personnes malades mentales à participer. Nous ne voulons pas ceux qui ont l'esprit confus. Ils ne peuvent pas cultiver et pratiquer. Ici, chez nous, il ne s'agit pas non plus de traiter les maladies. Le but de ma venue en public pour enseigner le gong est précisément d'emmener les gens à des niveaux élevés. C'est précisément ce but-là. C'est pourquoi ceux dont les buts sont différents des miens peuvent aller trouver d'autres personnes. Certains gens peuvent penser « Bien, qu'y a-t-il de faux à guérir les maladies par compassion ?» Certaines personnes pensent aussi « Si je ressens de la compassion et guéris les maladies des autres, qu'y a-t-il de faux là-dedans ?» De toute façon, je vous ai parlé clairement des principes. Qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est juste? Tu dois utiliser les principes des hauts niveaux pour établir les exigences envers toi-même. Les principes des gens ordinaires ne marchent pas, n'est-ce pas? Comme nous sommes responsables envers toi dans la pratique de gong, nous ne te permettons pas de ruiner ton corps. Nous ne te permettons pas de polluer ton corps avec ces maladies. Nous ne t'autorisons pas à traiter les maladies. Voilà quel en est le principe. Alors certains disent, ne s'agit-il pas de sauver les gens? Je vous dis, cela n'est pas sauver les gens. Tu ne peux pas les sauver finalement. L'école de Bouddha enseigne que sauver un être humain signifie l'élever vers les niveaux supérieurs, hors de l'environnement des souffrances humaines, de le soustraire à cette mer humaine de souffrance. Voilà le véritable sens de sauver les gens. Où dit-on que guérir les gens des maladies, c'est les sauver? C'est simplement une phrase toute faite des petites voix mondaines. Aider le monde et aider les gens, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous exigeons que ta conscience principale soit claire. C'est toi-même qui dois comprendre. Si quelqu'un est confus, il n'y a rien que nous puissions faire pour lui. Certains sont sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Ils ont l'esprit emmêlé et parlent de choses qui n'ont pas de sens. Dans ton Shulian futur, tu dois absolument faire attention à cela. Si ton esprit n'est pas clair, c'est inacceptable. La question « qui pratique obtient le gong » est extrêmement cruciale. En parlant de cette question, je veux exposer en premier lieu cela. Dans l'histoire, il y a eu, en faisant connaître cette question, toutes les écoles et tous les systèmes dans l'histoire, c'est-à-dire que cela implique des origines historiques très profondes. Le domaine que cela recouvre et implique est vraiment énorme. C'est ainsi, parce que depuis les anciens temps jusqu'à maintenant, beaucoup de voies de Shaolin 95%, 98%, 99%, comme je le vois, si je parle de manière absolue, certains ne voudront pas écouter. Je vous le dis, la grande, grande majorité des voies de cultivation cultivent la conscience secondaire d'une personne. Ils ne s'occupent pas de ta conscience principale. Regarde-toi assis en méditation là. Je vous le dis, tu ne sais même pas ce que tu cultives. Qui cultive? Qui obtient le gong? Quelqu'un l'obtient, mais tu n'en sais rien. Quelqu'un sait, quelqu'un comprend. Je vous ai dit qu'en plus de l'esprit principal, une personne a une conscience secondaire. Puisque la conscience secondaire n'est pas perdue dans les illusions des gens ordinaires, bien sûr, elle est aussi perdue. Elle est perdue dans son espace. Elle ne peut pas voir les scènes dans les espaces supérieurs de l'univers. Elle ne peut que voir des choses à un très bas niveau dans son espace actuel. C'est pourquoi elle est aussi capable de cultiver et de pratiquer. En même temps, elle est aussi dans ton corps et souffre comme toi. Alors c'est elle qu'on va sauver et pas toi. Bien qu'elle soit intégrée à ton être et appelée du même nom que toi, À strictement parler, elle n'est pas toi. Mais dans ce monde, celui ou celle qui agit consciemment, c'est toi. Dis-moi, tu cultives et cultives, mais le gant ne t'est pas donné. N'est-ce pas très injuste ? Mais c'est un secret des secrets. Quelque chose qui est enveloppé d'un secret absolu. Dans le passé, personne n'osait en parler. Même si on le savait, on n'osait pas en parler. Aujourd'hui, nous l'avons révélé. Réfléchissez. N'était-ce pas le cas dans le passé ? L'école taoïste, les livres du Shaolin de l'école taoïste disent, beaucoup de systèmes taoïstes te disent la chose suivante. L'esprit de connaissance meurt et l'esprit originel naît. Qu'est-ce que cela signifie ? Ton esprit de connaissance est celui qui est ton propre toi-même. Ce que tu fais en toute connaissance et consciemment. Ce que tu penses, n'est-ce pas toi-même ? C'est ce qu'ils appelaient l'esprit de connaissance. En fait, nous l'appelons l'esprit originel principal. Ce qu'ils appelaient l'esprit originel est en fait l'esprit originel secondaire de l'homme. Alors ils disaient, l'esprit de connaissance meurt et l'esprit originel naît. Si l'esprit de connaissance est mort, tu vas être vraiment mort. Et celui qui dominera ton corps sera l'esprit originel secondaire. Mais en même temps, il ne peut mourir. S'il mourait, ce serait un meurtre, n'est-ce pas ? On le dit seulement de cette manière. L'esprit de connaissance doit mourir. Cela signifie, dans la mesure du possible, il faut faire en sorte que l'esprit de connaissance n'ait aucun effet. Qu'il soit comme mort, de sorte qu'il ne puisse avoir aucun effet. Je vous ai dit hier que beaucoup de taoïstes buvaient jusqu'à ce qu'ils soient sous et inconscients, et qu'ensuite ils dorment. Certaines personnes sont même impressionnées par le fait que des immortels peuvent dormir d'une traite pendant plusieurs décennies et pensent que c'est une grande capacité. Mais quelqu'un n'a pas dormi, quelqu'un a pratiqué tandis que de ce côté on dormait. Dès que certains s'assoient là en méditation, pour les moines c'est la même chose. Dans le passé, c'était un secret des secrets. Personne n'en parlait. Ne demande-t-on pas aux moines aussi de se concentrer complètement, de se concentrer jusqu'à ce qu'ils soient plus conscients de quoi que ce soit ? Mais quelqu'un est conscient. Bodhidharma s'est assis sans bouger face à un mur pendant 9 ans. Et il y a des moines qui se sont assis face à un mur et qui ne sont pas sortis de leur recueillement pendant plusieurs décennies. Ils ne sont conscients de rien du tout, comme s'ils dormaient. Mais quelqu'un est conscient. Si comme pratiquant, tu pouvais voir avec ton œil céleste, si toi-même avais le pouvoir supranormal de la vision à distance, tu pourrais voir la scène suivante. Au moment où tu t'assois là en méditation, tu sentirais, tu verrais que de ton corps s'envole quelque chose comme une apparition. Peut-être que ce n'est pas toi, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est de sexe masculin, peut-être de sexe féminin. Elle s'en va, tu la suis avec ta vision. Peu après, tu vois un maître l'emmener, et alors, dans un certain endroit, le maître lui enseigne comment pratiquer. Mais cette personne est confuse. C'était aussi une énigme dans le passé, un secret des secrets dont il était interdit de parler. Donc cette personne assise là ne peut distinguer qui est son vrai soi. Elle pense « Oh, le maître est venu me chercher pour m'apprendre à pratiquer. Il a fait sortir mon esprit pour pratiquer le gong. En fait, ce n'est pas vraiment elle. C'est quelqu'un d'autre et elle n'a rien. Après la mort, chacun suit son propre chemin, car celui qui a vraiment souffert et cultivé est l'autre personne. Alors pourquoi n'a-t-on pas sauvé cette personne à la place de l'autre ? Spécialement dans les temps modernes, cette question est devenue même plus claire. À savoir, un homme est le plus difficile à sauver, le plus impossible à sauver. On ne peut pas le sauver, mais malgré tout, on veut encore sauver les gens. On a l'obligation de sauver les gens. On est aussi capable de sauver les gens. C'est pourquoi on sauve l'esprit originel secondaire. De toute façon, ils sont tous toi. Je sauve celui qui est le plus facile à sauver. Ton esprit de connaissance, c'est-à-dire ton propre toi, est si difficile à sauver. On te dit de renoncer à tes attachements, peux-tu le faire ? Hier, j'ai parlé de gêne. Alors, il y a quelques personnes qui sont venues vers moi et qui ont voulu que le fa soit modifié un petit peu, simplement pour illustrer ce point. Es-tu capable de ne pas te battre pour ta réputation et tes avantages particuliers parmi les gens ordinaires ? Quand il est question de tes propres intérêts personnels et concrets, peux-tu te tenir en retrait et ne pas te disputer ? Si quelqu'un te fait perdre la face quand tu marches dans la rue ou en présence de tes parents et de tes bons amis, là où tu crains le plus de perdre la face, peux-tu garder le cœur indifférent ? C'est très difficile à faire. Mais ces choses, ces questions de gens ordinaires, passent en un clin d'œil. Pour toute personne venant ici-bas, c'est comme séjourner à l'hôtel. Tu séjournes dans cet hôtel, mais quand l'aube arrive, chacun s'en va. Ne sois attaché à rien. Mais on n'y pense pas, on n'y croit pas. On dit qu'à la fin d'une vie, tout ce qui concerne le niveau des gens ordinaires disparaît. Peu importe les sommes d'argent que tu as gagnées, pourras-tu les emporter avec toi ? Tu arrivais les mains vides, tu partiras les mains vides. Tu n'auras rien, comme dans cette blague que je raconte. Quand tu arriveras dans leur maison, dans ta prochaine vie, même s'il y a ton fils, le reconnaîtras-tu encore? Si tu es là et que tu balayes le sol pour lui, il se peut qu'il ne te paye pas nécessairement plus. Il ne te permettra même pas de gagner plus. Je veux simplement clarifier les choses. De quelle utilité sont les attachements multiples des gens ordinaires? Je le dis pour les pratiquants et non pour les gens ordinaires. Les sentiments doivent exister parmi les gens ordinaires. Les gens ordinaires doivent avoir des sentiments. Quelqu'un hier a écrit une note qui était en désaccord avec mon point de vue, disant « Si les sentiments étaient abandonnés, aurait-on encore une société humaine ?» C'est vrai, s'il n'y avait plus de sentiments, on ne serait plus un être humain. Ce ne serait plus une société humaine. Personne ne t'a dit que tu devais abandonner ces sentiments, que tu ne pouvais pas être un être humain. Tu peux tranquillement en être un si tu le veux. Ici, nous parlons aux pratiquants, aux véritables pratiquants. Si tu peux le faire, c'est la cultivation. Si tu ne peux pas le faire, comment cela pourrait-il être la cultivation? N'es-tu pas alors simplement une personne ordinaire? Ainsi, dans le passé, Lu Dongbin a prononcé ces paroles. « Je préfère sauver un animal plutôt qu'un être humain. » Cela veut dire que les êtres humains sont simplement trop difficiles à sauver, trop loin de l'éveil. Nous t'en avons dit beaucoup et malgré tout, certains passeront cette porte et feront encore ce qui leur plaît. La situation est simplement comme ça. C'est pourquoi, à travers les âges, on a apporté le salut de cette manière. C'est seulement lorsque l'esprit originel principal venait dans des conditions très spéciales qu'on le sauvait. Autrement, d'une manière générale, on sauvait toujours la conscience originelle secondaire. Tu vois, après la mort, l'un part et l'autre reste. De toute façon, c'est sûr que cela se passe de cette manière. Alors pourquoi avons-nous révélé cette chose aujourd'hui? Parce que notre système permet à ton esprit originel principal d'obtenir le gong. Parce qu'il cultive la conscience principale de l'homme. Ce que cultive notre système appartient à la conscience principale du pratiquant. C'est pourquoi cela n'irait pas si nous n'en parlions pas. Mais le faire connaître implique un contexte historique très large, des origines historiques profondes, et ça a de vastes implications. Ainsi, aujourd'hui, nous l'avons fait connaître. Quoique nous l'ayons fait connaître, je dis que ce qui est bien dans ce système réside là, dans le fait qu'il peut vraiment te faire gagner le gong. Je vous le dis aussi, vous êtes en train d'applaudir, mais ne soyez pas heureux trop tôt. Ce qui est difficile dans ce système réside aussi précisément là. Pourquoi est-ce que je dis que la difficulté est là aussi? Parce que tu dois, en toute connaissance et consciemment, accepter d'être maltraité dans la société humaine ordinaire, tout en gardant ton cœur impassible. Ne pas se comporter comme on le fait et continuer à t'élever toi-même. C'est le plus dur, mais seulement le plus difficile te permet d'obtenir le meilleur. Et c'est là qu'il est le plus commode, ce système. Pourquoi disons-nous qu'il est l'école de Fa le plus commode? Nous t'avons fait connaître des principes tellement grands. Ce n'est pas qu'on te fasse perdre vraiment quelque chose de matériel, c'est pour te permettre de... Tu peux faire ton travail, tu peux faire la cultivation de manière professionnelle. Si tu cultives dans ton temps libre, ça va aussi. Tu peux faire la même chose que les gens ordinaires et conserver cet état extrêmement commode. On ne peut pas faire plus commode. Mais dans cet environnement compliqué, extérieurement, tu es comme les autres gens, mais dans ton cœur, sans cesse, tu montes et tu t'élèves. C'est très difficile. Dans le passé, on disait, dans les monastères circulaient les paroles suivantes. Shakyamuni, Bodhidharma et de grands moines venus de l'Inde, tous disaient de telles paroles. La terre de l'Orient, la région de la Chine, est une région qui produit des gens de grande vertu. Gardez vos applaudissements. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi n'en est-ce pas le sens? Beaucoup de moines pensent de cette manière. Nous, les Chinois, nous sommes super. Le peuple chinois peut cultiver à un très haut niveau. Je vous le dis, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Comme je l'ai dit, il est très difficile pour les gens à un bas niveau de connaître le véritable sens des paroles ou l'état d'esprit des grands éveillés ou des personnes supérieures à leur niveau. Réfléchissez. Des gens de grande vertu peuvent surgir par la cultivation dans cette région. De grands maîtres peuvent, grâce à la cultivation, se développer à cet endroit. Qu'est-ce que cela signifie? C'est seulement dans l'environnement le plus complexe, parmi les gens les plus compliqués, que les gens les meilleurs peuvent réussir dans leur cultivation. N'est-ce pas ainsi? Si tout le monde est gentil, si les conflits ne sont pas rudes, on ne peut pas cultiver. Pourquoi rapporte-t-on qu'il est difficile de cultiver dans le ciel? Comme on le dit dans les religions, il n'y a pas de conflit. Tu es content de me voir, je suis content de te voir, tout le monde est très confortable, il n'y a pas de souffrance à supporter. Où vas-tu cultiver? Où vas-tu t'élever? N'est-ce pas le principe? C'en est précisément le sens.
«
C'est pourquoi lorsque tu pratiques ce gong, nous exigeons que tu élèves ton xinxin en toute connaissance et consciemment. Le plus important est de mettre beaucoup d'efforts à élever ton xinxin. Puis vient la pratique des exercices. La pratique est pour transformer ton corps et développer des choses magiques. En d'autres termes, tu dois accroître le gong. Si tu cultives seulement ton cœur, si tu cultives seulement le xinxin et que tu ne pratiques pas le gong, tu es simplement une personne bonne parmi de bonnes personnes. Tu accumules du de. Si tu pratiques seulement le gong, il ne s'accroîtra pas. C'est pourquoi dans le shaolian, tu dois mettre l'accent sur le fa. À propos de ceci, il y a déjà 2 ou 3 mois que je ne suis pas apparue en public. Pendant presque 4 mois, je me suis occupée de certaines choses et n'ai pas fait de séminaire. Durant ce temps, j'ai intentionnellement gardé un œil sur l'état des activités dans différentes régions pour voir si nos élèves pouvaient passer les épreuves lorsque je n'étais pas dans les alentours. Dans le futur, je ne serai pas là et personne ne me verra plus. Comment agiront ces gens? Alors intentionnellement, j'ai observé ce qui s'est passé. Il y eut toutes sortes de comportements. Cependant, dans l'ensemble, c'était tout à fait bien. Dans la région de Changchun, la situation suivante est apparue parmi les élèves. Au début, les assistants ont découvert qu'ils ne pouvaient pas répondre à beaucoup de questions qui leur étaient posées par les élèves. Ils attendaient simplement de me voir pour me questionner. Puis les élèves et les centres d'assistance ont découvert. Si nous lisions attentivement le livre, tout n'est-il pas écrit là-dedans? Ainsi, plusieurs élèves ont réuni des gens et ont commencé à étudier ensemble. Plus tard, le centre d'assistance de Changchun s'est organisé aussi pour que tout le monde commence à étudier le fa. Alors, dès qu'ils ont commencé à lire de manière répétée, graduellement, ils ont résolu toutes les questions qu'ils avaient à l'esprit. Ils n'avaient plus rien à demander. Cette expérience les a conduits à la conclusion suivante. Nous nous sommes donné tant de mal, mais il apparaît que le fa enseigné par notre maître est complètement contenu dans le livre. Tout ce que nous voulons savoir a été enseigné. Ils ont écouté les enregistrements et étudié le fa, la version révisée du livre, Falun Gong. Ils ont découvert qu'étudier le fa amène de grands progrès. Ils ont pensé qu'étudier seulement le fa n'est pas suffisant. Ils ont dit, c'est quelque chose de tellement bon, pourquoi ne pas l'apprendre par cœur? Alors, ils ont commencé à mémoriser le livre. Au début, chaque jour, après avoir fini la pratique, ils restaient et lisaient le livre. À l'issue de la pratique, si tu devais partir plus tôt pour aller au travail, tu pouvais partir. Et toutes les autres personnes s'asseyaient et commençaient à lire. Tu lisais un passage, la personne suivante lisait un passage, et plus tard, chacun en discutait. Ils se sont élevés très rapidement. Quel degré a finalement été atteint? Un autre site de pratique a dit, « Ce qui est fait dans ton site de pratique, nous allons le commencer. Nous allons mémoriser le livre. » Cette mémorisation du livre a motivé la région de Changchun tout entière. Ils ont commencé à mémoriser le livre. Maintenant, quand ils lisent le livre, ils ne l'amènent plus avec eux désormais. Après avoir terminé la pratique, ils s'asseyent ensemble et commencent à étudier le fa. Un élève récite un passage, un autre récite le passage suivant, et ainsi de suite. Si quelqu'un commet une faute, chacun le sait, car ils l'ont tous mémorisé. Certains peuvent le réciter à l'envers. De cette façon a surgi ce point culminant dans l'étude de fa. Quelles que soient les questions qu'ils voulaient poser, elles disparaissaient toutes. Toutes trouvaient leur réponse, à moins que tu ne veuilles pas étudier. Par bonheur, notre livre, Zhuan Falun, est sur le point de sortir, c'est-à-dire le contenu complet de mes conférences. Une combinaison de la matière de plusieurs séminaires va être publiée. On peut dire qu'il est le plus complet. Toute chose est là-dedans. En lisant ce livre, tout ce à quoi tu ne peux pas répondre, tout ce que tu ne peux pas comprendre par le sens de l'éveil, tu le chercheras dans le livre. Il est garanti que tu vas le trouver. Il peut répondre à tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Que chacun fasse une pause de 5 minutes. Ensuite, nous passerons à l'exercice que nous avons appris hier.